Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Au sommaire du Bien commun ce matin, la chronique de Sébastien Miller, que l'on retrouvera en fin d'émission, et qui a pour titre « De la distinction entre la faute de l'État et celle de son agent ». Dans le dossier, nous traiterons d'une question d'actualité, la castration chimique, d'autant plus d'actualité que la garde des Sceaux en ce moment est en train de s'exprimer à ce sujet devant la commission des lois à l'Assemblée. Mais avant, l'agenda d'Harold Épineuse. Bonjour Harold.
Bonjour Antoine. Et bonjour à tous. Dans l'agenda cette semaine, un livre sur la réforme de la justice après l'effondrement du Bloc de l'Est. Un colloque de jeunes chercheurs très attendu depuis que nous avions annoncé l'appel à contribution de ce colloque dans notre agenda il y a quelques mois. Colloque sur le traitement juridique du sexe. Et en troisième partie de l'agenda, une performance d'art contemporain. Réformer la justice dans un pays post-communiste, c'est le titre d'un ouvrage signé Ramon Coman, qui signait là sa thèse de doctorat en droit à l'Université libre de Bruxelles, une thèse de 200 pages tout récemment publiée aux éditions de l'Université de Bruxelles. Le sous-titre de l'ouvrage nous renseigne un peu plus sur les intentions et la méthode de l'auteur, puisqu'il s'agit d'une étude de cas sur un pays en particulier, la Roumanie. Rien de mieux d'ailleurs que de choisir un terrain de prédilection pour décrire en détail le processus de transformation institutionnelle vers le retour à la démocratie à l'Est. L'ouvrage profite d'ailleurs de ce regard à la loupe pour interroger deux questions essentielles à l'heure où l'on commémore de toutes parts la chute du mur de Berlin et du Bloc de l'Est avec lui. La première de ces questions est celle du devenir politique d'un principe, celui de l'indépendance judiciaire dans la complexité d'une société post-communiste où médias et sociétés civiles, magistrats et politiques doivent endosser de nouveaux rôles, réapprendre à vivre ensemble avec des contraintes de nature et d'intensité très différentes. La seconde question que traite l'ouvrage, tout aussi intéressante, porte sur les mécanismes d'européanisation, première fois à notre connaissance où l'on prend la peine de porter un regard critique sur les politiques de coopération et d'intégration européenne, politiques qui prennent pour base la réforme institutionnelle de la justice. Réformer la justice dans un pays post-communiste, le cas de la Roumanie, de Ramona Coman, un ouvrage publié aux presses de l'Université de Bruxelles. Et maintenant, une journée d'études vendredi à Sceaux en région parisienne. Journée d'études entièrement consacrée au sexe et à son traitement juridique. Nous nous en étions fait l'écho de cet appel à contribution du colloque au printemps, appel à contribution qui visait des jeunes chercheurs. Et bien voici maintenant le programme et les thèmes retenus pour cette journée. Un programme concocté par les organisateurs, l'Institut d'études de droit public de l'Université Paris-Sud, et un programme dans lequel on pose la question du mariage d'abord, mariage homosexuel bien entendu, mais aussi mariage à l'épreuve du transsexualisme. On y pose aussi la question de la filiation, celle de l'identité des personnes à partir du cas de l'intersexualité, entre autres questions sur la prostitution, la répression du sadomasochisme, la pédopornographie virtuelle ou encore la nécrophilie, des sujets pas forcément légers comme vous pouvez le constater, d'autant qu'il s'agit d'un colloque juridique, mais que cela ne vous dispense pas de vous rendre à Sceaux vendredi et d'écouter les prouesses et les trouvailles de ces jeunes chercheurs en droit public. Et pour terminer, vendredi soir à Paris, au Centre Pompidou, une performance d'art contemporain, une heure et plus de plaidoirie avec le public dans une affaire inventée de toutes pièces intitulée X contre préfet de 3 points de suspension. C'est le titre donc de cette performance, autrement dénommée plaidoirie pour une jurisprudence. Alors de quoi s'agit-il en fait? Eh bien, de deux juristes en robe d'avocat, Sylvia Preuss-Lossinotte et Sébastien Canevet, qui tentent par leur plaidoirie d'obtenir d'un juge administratif que l'on imagine devant eux l'annulation d'une mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de leur client, Monsieur X, par le préfet d'un département quelconque et imaginaire. Et ce qui est intéressant dans cette performance, c'est la façon dont les deux acteurs et les auteurs derrière eux jouent leur partition de juriste derrière le message politique. Faisant appel à un certain nombre de textes juridiques dans leur démonstration, allant même jusqu'à distribuer au public, au début de la séance, un dossier contenant des morceaux de législation, de doctrine, de jurisprudence, en la forme d'un dossier de plaidoirie qu'ils remettraient au juge. C'est non pour terminer que la performance, qui n'en est pas à sa première, sera délivrée à Nantes la veille, jeudi 5 novembre, et qu'un site internet permet de suivre l'aventure au long cours, d'y réagir aussi. Un site internet dont voici l'adresse www.plaidoirie-pour-une-jurisprudence-tout-attaché.net. Toutes les informations sont également disponibles sur notre site franceculture.com à la page du bien commun.
Merci Harold. The Castration Tango. The Castration Tango. Le groupe Botanica, avec cet étonnant tango de la castration, pose à sa manière une question d'actualité. Une question brûlante d'actualité qui a été relancée par le récent jugement de Francis Évrard, qui a inscrit à l'agenda politique la question de la castration chimique. L'expression frappe, et peut-être n'est-elle pas d'ailleurs appropriée ni exacte. Il serait plus juste de parler d'un réducteur médicamenteux de la libido. Il n'empêche que la question est posée devant nos députés et qu'elle est même redoublée par celle de la castration physique. Elle nous met en demeure d'y répondre, ce que le bien commun va tenter de faire ce matin, en l'abordant d'une manière pratique, au plus près des réalités aussi bien thérapeutiques que pénitentiaires, avec mes deux invités. D'une part, le docteur Roland Coutenceau, qui est psychiatre, expert judiciaire, qui préside la Ligue française de santé mentale, qui prépare un ouvrage qui sera disponible dans quelques mois en librairie, intitulé « Auteurs et victimes d'agressions sexuelles, approche psychocriminologique ». Ce sera aux éditions du Noé. Pour en parler avec lui, un magistrat, Ludovic Fossé, qui est secrétaire général de l'ANJAP, l'Association nationale des juges de l'application des peines, et qui est vice-président au tribunal de grande instance de Créteil, en charge de l'application des peines précisément. Roland Coutenceau, Ludovic Fossé, bonjour. Roland Coutenceau, qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour qu'ils se fassent une idée exacte de la capacité des médicaments? Castration chimique, je viens de le dire, c'est une expression qui frappe, mais qu'en est-il concrètement, d'un point de vue pharmacologique, j'allais dire, de ces médicaments?
Oui, je dirais peut-être, pour bien poser le débat, comme toujours, quand les choses sont bien posées, on les comprend. Alors, un préalable, castration chimique, il est évident que c'est une manière sociale de parler de l'action d'un médicament. On ne castre personne, ni physiquement, ni psychiquement. Et effectivement, comme vous venez de le dire dans l'introduction, c'est un médicament donc qui a un effet sur la libido, qui a un effet sur la production des fantasmes, qui a un effet pour aider quelqu'un à se maîtriser. Alors, au fond, comme tout médicament, il a des indications. Le médecin en attend une certaine efficacité, comme tout médicament. Troisièmement, il a également des contre-indications. Et quatrième élément, c'est un médicament. Donc, il va s'inscrire dans une relation médecin-malade où, dans toutes les démocraties du monde, les médecins sont à juste titre attachés. Donc, il y a un certain nombre de règles pour le prescrire. Alors, les indications, déjà, pour dédramatiser les choses. Est-ce qu'on va donner ce médicament? Est-ce que, même de mon évaluation propre en tant que psychiatre, criminologue, en tant qu'expert, est-ce que c'est nécessaire pour tous les auteurs d'agressions sexuelles? Non. Ça n'a aucun intérêt chez la grande majorité de ceux qui font des actes de type incestueux.
Vous avez l'expression, vous parlez de pédophile exclusif.
Oui, donc effectivement, dans beaucoup de pays où ce traitement, comme en France d'ailleurs, existe depuis des années, en France,
parce qu'il existe déjà.
On le prescrit, c'est déjà. Donc au fond, il y a à peu près 10% de sujets qui font des actes sur des enfants dans la famille, donc des actes pédophiliques, où effectivement le médecin pense que c'est utile. En général, ça étonnera pas les gens, ce sont, pour moi, l'indication. Pour qu'on comprenne bien, c'est des sujets qui non seulement ont le malheur, entre guillemets, d'avoir un attrait exclusif ou préférentiel pour l'enfant. Donc il y a des gens qui sont pédophiles, comme d'autres sont homo-hétéros. Donc c'est le choix d'objet, comme on dit dans notre jargon. Deuxièmement, ces fantasmes sont obsédants. Donc exclusifs, le fantasme est obsédant, même si les sujets exagèrent un peu pour dire qu'ils ne peuvent pas se contrôler. Ils prétendent, ils allèguent, c'est en partie vrai, je suis obsédé par ça. Donc un petit peu, on pourrait dire, c'est du Volinsky au cube. Donc ils sont obsédés par les fantasmes. Et trois, ils ont une personnalité très égocentrée, puisque ce que je dis toujours, c'est toujours une personnalité qui s'autorise à se laisser vivre ses fantasmes sans tenir compte de l'autre. C'est ça l'agression sexuelle. C'est pas un surcroît de pulsion, c'est pas un surcroît de fantasmes, c'est pas un surcroît d'hormones, mais donc...
Vous n'avez pas peur qu'on vous reproche de faire de la morale quand vous dites ça ?
Quoi
de dire c'est en fond une emprise illégitime sur autrui dans la...
Ah non, je vais le dire très simplement, alors il faut le dire de façon neutre, l'agression sexuelle n'est pas un excès d'hormones ou un excès de sexualité, c'est simplement le fait que consciemment, parce qu'ils le savent bien, comme dirait l'autre, quelqu'un s'autorise de vivre son désir sur un autre être humain. C'est ça. Je le dis en termes psychiques. Je ne le dis pas en moraliste. Le dis simplement en quelqu'un qui décrit ce qu'est l'agression sexuelle. On s'autorise finalement à obliger quelqu'un, à le contraindre. Et donc, c'est sur ce facteur-là. Je dirais même que le facteur de personnalité est, dans ma compréhension, plus important que le facteur psychosexuel à proprement parler, même si je souhaite, en tant que médecin, chez certains, je viens de dire les indications, un peu diminuer un petit peu l'excitation.
C'est ça, un des risques multiples de cette expression castration chimique, elle joue finalement deux fantasmes majeurs, le fantasme de la castration, on va leur couper les couilles, excusez-moi de parler familièrement, et puis en plus le chimique, c'est-à-dire ce qui est artificiel, ce qui est délibéré comme les armes chimiques, le chimique fait peur, mais est-ce que ça ne risque pas d'induire, c'est une question que je pose à toutes les deux, quelque chose, une fausse idée, qui est que l'origine, en quelque sorte, de la délinquance se trouve déjà dans le corps, de manière organique, dans un déséquilibre chimique du corps. Est-ce qu'il n'y a pas là une première imposture intellectuelle ?
En ce qui me concerne, je dirais que c'est fondamental, bien sûr. Je crois que cette idée de castration chimique est malheureuse, d'abord parce que c'est réductionniste, bon, on les castre pas, et deuxième élément, c'est pas ça l'objectif, hein, c'est-à-dire, c'est comme se cacher, c'est comme finalement valider, voilà. Le paradoxe, si j'étais un peu provocateur, c'est de valider le discours du délinquant. Finalement, je l'ai fait parce que je pouvais pas contrôler mes pulsions. Je dirais même de façon humoristique que les psychiatres ont trop bien réussi avec le mot pulsion. Est-ce qu'on a déjà vu passer une pulsion ? Non, moi, j'ai jamais vu passer une pulsion. Je vois passer des fantasmes, comme tout un chacun, comme vous et moi. Donc, vous avez raison, on pourrait dire que cette expression est doublement malheureuse. Un, parce qu'elle est inexacte, mais surtout parce qu'elle validerait l'idée que certains délinquants donnent d'eux-mêmes. Retenez-moi où je fais un malheur. Finalement, j'ai un trop-plein de sexualité, c'est pour ça que je passe à l'acte. Non, on passe à l'acte parce qu'on choisit de façon égocentrique aussi de s'autoriser la contrainte sur l'autre, même si ce facteur sexuel, le médecin pense, on y reviendra, que c'est pas mal de le diminuer.
De diminuer. Mais il y a donc une dimension, Ludovic Fossé, une dimension déresponsabilisante, rien que dans l'expression castration chimique.
Oui, elle est de toute façon extrêmement réductrice dans la prise en charge des délinquants sexuels, puisque bien évidemment, la particularité évidemment de l'intervention du juge, c'est que la personne est passée à l'acte. Je suis persuadé qu'il y a de nombreuses personnes qui présentent une problématique sexuelle de cette nature et qui ne passent pas à l'acte, qui sont en mesure par elles-mêmes, parce qu'elles vont consulter avant, parce qu'elles sont entourées, parce qu'elles ne commettent pas d'actes sexuels. Et donc, moi, je suis dans une situation un peu différente, puisque bien évidemment, les personnes que je suis sont nécessairement passées à l'acte. Elles ont commis une agression sexuelle, et donc il s'agit ensuite de les prendre en charge et essayer d'apporter une réponse à la fois pénale, judiciaire, enfin, par rapport à l'acte, et puis ensuite de prévenir le renouvellement de l'infraction. Il est bien évident que cette notion de traitement de la libido ou de castration est trop réducteur dans la prise en charge du délinquant sexuel. La prise en charge, elle est d'ordre, psychique, si je puis dire. Le fait que la personne va être suivie par un psychologue ou un psychiatre avec lequel le condamné patient, on voit bien que là, personne va devoir sentir en confiance pour faire part de ses difficultés psychiques et obtenir donc une réponse, d'une part. Et puis ensuite, une prise en charge également sociale, puisque nos grandes difficultés, je dirais aujourd'hui, pour un certain nombre de ces délinquants, c'est de pouvoir les convoquer, les rencontrer, les prendre en charge. On voit bien quelqu'un, par exemple, qui serait sans domicile fixe et qui aurait une problématique sexuelle. il est bien difficile de mettre en place un quelconque traitement. Donc, pour que cette prévention de la récidive puisse réussir, il faut prendre l'individu, l'ensemble de...
De l'ensemble de l'individu. Mais alors justement, c'est intéressant ce que vous nous dites sur l'acte, parce que est-ce qu'une des autres ambiguïtés de cette expression, ce n'est pas de passer insensiblement d'un acte passé à une personne, à une personnalité, Ludovic Fossé?
Moi, je crois qu'on ne peut pas réduire le délinquant à son acte. Donc, il faut réussir à restaurer l'individu autour de cet acte. Évidemment, le sanctionner en fonction de la gravité de l'acte. Hein. Enfin, plus l'acte est grave, évidemment, plus la réponse judiciaire pénale va être forte et va impacter sur la vie de la personne qui est passée à l'acte. Mais au-delà de ça, il faut réussir à dépasser et à considérer... le condamné sexuel comme une personne responsable, d'abord c'est ce que dit la loi, puisque par définition, si on la condamne, c'est qu'elle est totalement responsable de ses actes, et donc de lui redonner une position d'adulte et de sujet responsable. C'est d'abord lui qui est responsable des obligations qui lui sont imposées, et il ne faut surtout pas aller vers l'infantilisation, et effectivement...
Ni vers une sorte d'organicisation de ce qu'il a fait, comme s'il avait été emporté par ses pulsions ou emporté par sa testostérone.
Tout à fait, oui.
Roland Coutenceau, sur cette vraiment ce travail paradoxal de séparation d'un individu et de son acte, quoi, de lui restituer son imperium sur son acte.
Je crois que là, on est au cœur de l'évaluation et de la prise en charge en psychocriminologie, parce que au fond, je dirais, il y a un double mouvement difficile pour le praticien. Un, il faut convaincre certains sujets que leur acte, c'est aussi un peu eux-mêmes. Par exemple, certains disent « c'est l'alcool, j'étais pas dans ma peau, j'avais pris du rohypnol ». Donc l'acte, c'est aussi lui. Et en même temps, il faut dire que l'homme ne se réduit pas à l'acte. Vous voyez cette double dynamique, à la fois pour responsabiliser quelqu'un qui parfois a des discours un petit peu, c'est mes pulsions, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est la fatigue, c'est la dépression. Donc l'acte, c'est aussi moi. Vous voyez, c'est paradoxal. Et en même temps, il faut lui dire, tu n'es pas que ton acte. Voilà la double dynamique, on veut dire philosophique, qui est au cœur de la difficulté de la prise en charge, en général, des sujets transgressifs. Alors, je vais répondre autrement aussi. Les deux critères qu'on rencontre le plus souvent chez les sujets récidivistes des agresseurs sur enfants sont l'exclusivité du choix d'objet, ils sont attirés exclusivement par les enfants avec une dimension obsédante, et deuxième élément, on peut les dire dans tous les langages, mais je vais le dire dans le langage le plus populaire, ils ont une personnalité égocentrique un peu mégalo. C'est-à-dire que voilà les deux critères. Il y a des gens qui sont exclusifs et effectivement qui se le tiennent pour dit après une condamnation, donc ils se contrôlent. Donc on voit bien que pour le médecin, pour le psychologue, il y a un travail pour essayer quand même, finalement, d'apaiser l'excitation sexuelle. Au sens analytique, on pourrait dire que certains humains, et il n'y a pas que les délinquants sexuels, on peut le renvoyer un peu aux auditeurs, sont parfois un peu... comment dire, préoccupé par la chose sexuelle. Hein, c'est pas anormal. Moi, je me rappelle un petit peu quand j'étais adolescent, même en faculté. Bon. Donc, effectivement, beaucoup d'êtres humains sont habités par les fantasmes. Ça fait partie de la vie. C'est le tribut qu'on a tous d'avoir un corps. Donc, quand on sent que quelqu'un est un peu faible devant cette excitation sexuelle, c'est pertinent de se dire, pour lui, qui semble avoir des faits de contrôle, est-ce que le médicament pourrait l'aider un peu? Mais deuxième élément, faut s'adresser à la personnalité. C'est-à-dire que c'est toujours... Moi, je le dis toujours justement pour contrecarrer ce côté des pulsions qui, finalement, le nombre de délinquants sexuels qui sont débordés par une pulsion un peu dans les discours. Donc, au fond, c'est toujours quand même une personnalité, c'est toujours quelqu'un qui choisit. Et donc là, on doit s'adresser à l'homme. On doit s'adresser à ce que j'appelle, moi, raboter, polir un peu l'égocentrisme. Les gens les plus problématiques sont des gens, si on le dit même de façon très populaire, c'est moi d'abord, Bibi d'abord. Oui. Donc, il y a à la fois, le médicament est utile, mais tout un travail psychologique pour que le sujet soit lucide sur sa contrainte. Une agression sexuelle, c'est toujours contraindre l'autre, le forcer, le respecter, ne pas tenir compte de lui.
Oui, Ludovic Fossé, oui, je dis
oui, non, chose. Simplement, parce que la grande difficulté souvent pour les délinquants sexuels, ce n'est pas tellement les contraintes à respecter les obligations qui sont les leurs. La plupart des délinquants sexuels s'inscrivent très bien dans les cas judiciaires qu'on pose et sont prêts à respecter toutes les obligations qu'on peut leur donner. La grande difficulté, c'est de les rendre acteurs de ces obligations et pas simplement un sujet passif.
Qu'est-ce que ça veut dire, les rendre acteurs de ces
c'est-à-dire
obligations ?
C'est-à-dire qu'ils aient conscience que tout ce qui va se mettre en place autour d'eux, c'est-à-dire ces rendez-vous avec un médecin traitant, avec un médecin coordonnateur, avec un psychologue, éventuellement avec un conseiller d'insertion et de probation, ça ne fonctionnerait, ça n'aura de sens que si eux-mêmes s'interrogent sur leur problématique, que si eux-mêmes ont conscience qu'il y a une difficulté, qu'il faut qu'ils cherchent à les résoudre eux. Et que ce n'est pas l'institution qui va les résoudre pour eux. Et ce que je crains dans ces traitements de la libido, si on devait les rendre obligatoires, c'est que d'une certaine manière, finalement, c'est la société qui règle le problème pour eux.
Et ou la chimie, ou la molécule.
Ou la molécule, et qu'eux sont quittes de ça, et qu'à partir du moment où ils prennent le traitement, et ben voilà, si jamais ils passent à l'acte à nouveau, etc., c'est pas tellement de leur faute, c'est celle de la société.
Dans tout ce qu'on dit, il y a une condition sur laquelle je voudrais qu'on vienne juste un instant, parce qu'elle me surprend. Tout cela ne marche qu'avec des gens qui reconnaissent les faits qu'ils ont commis. Est-ce que vous n'êtes pas confronté l'un et l'autre, mais c'est surtout à vous, monsieur le juge, Ludovic Fossé, à des gens qui ont commis des actes extrêmement graves et qui ne reconnaissent pas, et surtout cette catégorie encore plus difficile, qui sont ceux qui ne contestent pas, mais ne reconnaissent pas, ce qui est assez fréquent, quoi, ce qui arrive en matière
sexuelle.
Oui,
mais par expérience, le déni concerne plutôt les auteurs d'actes incestueux. C'est plutôt dans l'inceste qu'on a des personnes qui ne reconnaissent pas l'acte et qui considèrent qu'ils généralement invoquent la thèse du complot, c'est le grand classique dans le domaine incestueux.
Oui, du complot familial.
Et je ne suis pas trop inquiet sur ces sujets-là, puisqu'en fait, en matière d'inceste, la récidive est peu probable, exceptionnelle, puisque l'intervention judiciaire a mis un terme au contexte incestueux.
Il faut aussi que les auditeurs le sachent, que l'inceste est
très peu récidive. En matière pédophile, véritablement, les gens qui ont une dimension pédophile, enfin là, je parle un peu sous le contrôle du docteur Coutenceau, il me semble que la plupart des pédophiles, à un moment ou à un autre, reconnaissent, alors peut-être pas l'acte dans toute sa dimension, effectivement, parfois ils en contestent une partie, parfois ils en contestent la répétition, mais ils ne contestent pas l'idée qu'ils ont une problématique sexuelle et qu'il faut qu'elle soit prise en compte.
Voilà, Coutenceau.
Alors, on est au cœur du travail de terrain. Moi, je dirais que pour qu'on s'est débarrassé un petit peu du débat social, enfin, entre guillemets, moi, je comprends un petit peu des gens qui peuvent être volontaristes. Je comprends même un petit peu qu'un politique puisse avoir une volonté de résoudre le problème. Je comprends même qu'effectivement, on se demande si effectivement on peut améliorer l'arsenal de la loi. Simplement, en tant que praticien de terrain, qu'est-ce que je me rends compte pour être dans l'axe de votre question ? Ben finalement, c'est toujours au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est-à-dire que, en fait, la véritable difficulté, c'est d'appliquer les lois à des sujets. Donc, regardons les droits-positions. Il y a des gens qui sont demandeurs presque de suivi. Au fond, c'est j'ai fait quelque chose de grave, je m'en rends compte maintenant. Finalement, j'ai envie de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Donc là,
et ça, c'est vrai, ça se rend compte.
Voilà,
ça.
Bien sûr, c'est une minorité, c'est la première position. La deuxième position, c'est des sujets, je dirais, qui acceptent l'obligation de soins, qui est l'injonction de soins donc, qui a été apportée en France donc, par la loi de 1998, la loi de Mme Guigou. Donc là, effectivement, le sujet accepte et le défi de la minorité de praticiens, psychiatres et psychologues qui accompagnent ces sujets en obligation de soins, c'est qu'au fond, chemin faisant, on essaie d'avoir plus d'adhésion du sujet. On y arrive, justement, par les techniques de groupe de parole. Et puis, vous avez un troisième groupe, et il faut bien qu'on comprenne aussi la difficulté du terrain, des sujets, soit qui nient les faits, enfin, mon équipe a trouvé une solution pour les prendre en charge, mais des sujets qui, par exemple, moi, j'ai beaucoup défendu l'intérêt du suivi dans le cadre du milieu carcéral.
Donc en forçant un peu le consentement.
Voilà, mais... Oui, mais justement, dans le droit européen, comme dans tous les autres pays, il n'y a pas d'obligation de suivi en milieu carcéral. Donc, il y a des sujets qui refusent. On peut faire une pression amicale, proche du chantage. Regardez, quelque chose qui est au cœur de notre débat, c'est effectivement, je pense que la sortie de ce sujet qui vient d'être jugé récemment dans le Nord, Evrard. Ça fait quand même désordre. Moi, je ne jette pas la pierre aux professionnels. Je dis que le cœur de l'application des lois, c'est au fond, est-ce qu'on est capable, professionnel, dans l'interdisciplinarité, à mieux travailler avec les gens les plus difficiles ? Quelqu'un qui est difficile, c'est quelqu'un qui refuse tout suivi en milieu carcéral.
Alors, vous disiez que
c'est quelqu'un qui vient avec ses pieds dans une consultation, mais finalement, qui n'y adhère pas. Donc, c'est ça le vrai défi de terrain. C'est au fond, comment travailler avec les personnalités difficiles.
Vous disiez que votre équipe avait une solution pour cette catégorie particulièrement difficile de délinquants qui résistent et qui refusent.
Oui, ben, alors on est une des rares équipes qui travaille avec les négateurs condamnés, hein, oui, condamnés par la République française. Simplement, la technique de groupe permet, je dirais, il suffit d'inclure dans un groupe un ou deux négateurs, pas plus. Vous voyez, il faut toujours être prudent. Et donc le défi, c'est, même s'il nie formellement, il est quand même dans un lieu leur fait faire un travail psychique. À moins qu'ils se bouchent les oreilles, ils entendent d'autres sujets qui ont fait la même chose de ce que la société pense qu'ils ont fait et qui s'autocritiquent. Et donc, qu'on le veuille ou non, on peut travailler en soi, même si formellement on nie. C'est ça un peu le pari de ma manière de travailler avec les négateurs. C'est-à-dire qu'au fond, je dirais même que qu'est-ce qu'on voit dans ces groupes de parole avec ces négateurs qu'on trempe ? J'appelle ça le bouillon de culture, un petit peu du groupe de parole. Certains, en voyant que les autres reconnaissent et finalement, ils ne sont pas... ils ne sont pas condamnés par ceux qui font la thérapie. Oui. Donc finalement, on vient à reconnaître au moins partiellement. Et d'autres, même s'ils gardent formellement, et je vais vous donner par exemple le discours qui est d'une forme d'intelligence, d'un sujet qui nous dit, voyez, aux yeux de ma famille, moi je suis, par exemple, bon, peu importe, c'était un Corse, mais enfin, il dit aux yeux de ma famille, aux yeux de mon entourage, je ne peux pas dire que j'ai fait ça. Je sais pas mon image. Bon. Mais au fond, quand quelqu'un me dit comme ça, je ne peux pas le dire, mais en même temps, il ne protestait pas qu'on l'ait inclus dans ce groupe de parole, ou de fait, par l'intermédiaire des autres, si vous voulez. Oui, c'est ça un petit peu le défi.
Ils se soignent par les autres, et ils se soignent par leur parole, en quelque sorte.
Et regardez, c'est pas parce que formellement, je nie, que je n'en pense pas moins. Regardez, quitte à être provocateur, moi j'ai travaillé avec mes collaborateurs, ils m'ont dit, mais Roland, tu veux nous faire travailler des négateurs ? Je leur ai dit, analysez vos propres mensonges. C'est-à-dire que, pour des choses banales, j'espère pas choquer les auditeurs de France Culture, qui sont très cultivés, mais je pense que ça leur arrive de mentir. On ment pour des petites choses, bien sûr. Donc au fond, si on analyse en nous... que pourquoi on est tenté de nier des grands hommes politiques ni beaucoup de gens sont tentés par la négation.
Non, mais
la
négation, France Culture, enfin.
La négation est un fait dans toutes les professions.
Mais,
il y a des gens qui
nient. Roland Coutenceau, est-ce que derrière tout cela, il n'y a pas un jeu de reconnaissance mutuelle? Et d'ailleurs, la langue française a choisi le même mot pour dire reconnaître des faits et être reconnu dans ce double sens, à la fois comme auteur, mais comme plus que son acte. Est-ce que la thérapie ne doit-elle pas intégrer ce lieu de la reconnaissance?
Pour dire un petit peu qu'est-ce qui bouge en thérapie, statistiquement, beaucoup de sujets, très honnêtement, par le groupe de parole, reconnaissent beaucoup plus de choses. Ça, c'est un des éléments. Ensuite, ce qui est plus difficile pour eux, c'est qu'ils reconnaissent qu'au fond, finalement, on transgresse dans des moments de fragilité existentielle. Voilà la deuxième idée force de la criminologie. Les gens n'agressent pas, Dieu soit loué, tous les jours. Donc, ils agressent dans des moments de fragilité. Il faut avoir des décodeurs, des feux rouges clignotants. Ensuite, le troisième niveau de difficulté, c'est au fond analyser que finalement, on ne tienne pas compte de l'autre. La souffrance d'autrui, ça peut choquer des gens qui nous écoutent, mais au fond, je dirais que beaucoup de délinquants ne tiennent pas compte d'autrui et donc leur apprendre la souffrance qu'ils causent est un des éléments un petit peu dynamiques un peu dans de tels suivis.
Il est 11h27 et vous écoutez France Culture, l'émission Le Bien Commun. La émission qui porte ce matin sur la castration chimique. Alors, Ludovic Fossé, vous êtes magistrat, donc vous avez été formé, votre métier c'est d'appliquer, de faire appliquer la loi, de faire appliquer des peines, on reviendra ensuite sur la durée de la peine. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une sorte de confusion des genres dans cette affaire de traitement médicamenteux? Est-ce qu'on n'a pas franchi un cap? Parce qu'une chose est de travailler avec des psys, avec des thérapeutes, mais là, il s'agit véritablement d'une dimension médicamenteuse, médicale, pharmacologique.
Oui, c'est effectivement la difficulté des réflexions actuelles sur le sujet. C'est-à-dire que traditionnellement, le juge est simplement, enfin le juge d'application des peines, en l'espèce, est chargé de veiller à ce que le condamné respecte une obligation de soins. Ça, c'est la première obligation qui existe dans le code depuis 1948. Où là, la relation est assez simple, puisque simplement, on demande au condamné de justifier régulièrement d'attestation de suivi de la part de son médecin. Et au nom du secret médical, on aura simplement une attestation nous indiquant qu'il y a ou il n'y a pas eu rendez-vous.
C'est ça, vous n'avez pas accès au contenu du travail thérapeutique.
Exactement. L'injonction de soins qui a été instituée par la loi 1998 a totalement bouleversé cette situation, puisqu'elle fait intervenir un nouvel acteur qui est le médecin coordonnateur, qui lui va assurer une interface entre le médecin traitant et le juge, et pour apprécier la qualité des soins mis en œuvre. Et là, évidemment, ça change totalement la situation. C'est-à-dire que le médecin coordonnateur vient nous dire les soins qui ont été mis en place par l'intéressé sont pertinents, sont efficaces, il faut les poursuivre, ou au contraire, ces soins ne sont pas du tout adaptés, j'ai demandé à ce qu'ils soient évolués, éventuellement le condamné s'y refuse, etc. Et à ce moment-là, que fait le juge de cette information ? Juge qui, lui, évidemment, n'est absolument pas médecin et est très mal à l'aise pour apprécier.
Parce que là, on vous demande de juger le soin, quoi, indirectement,
voilà,
de juger
tout à
le
fait,
soin.
Tout à fait. Et là, on est effectivement en très grande difficulté. Et si on allait vers traitement obligatoire avec l'idée qui serait derrière, c'est-à-dire que si effectivement le patient ne prend pas le traitement qu'on lui impose, c'est le retour en prison. Et donc le juge qui doit décider du retour en prison. Moi, je suis extrêmement mal à l'aise dans un tel processus. J'estime pour moi que ce n'est pas le rôle du juge. On rentre dans la relation patient-médecin lorsqu'on fait ça. Et à mon avis, c'est très inefficace. C'est-à-dire que le juge doit nécessairement être en retrait par rapport à cette relation-là. Il doit simplement, effectivement, veiller à ce que tout est en place.
Et respecter le périmètre de chacun, le périmètre du thérapeute, le périmètre de la
justice.
Voilà,
exactement, et pas aller au-delà. Il peut éventuellement redonner une expertise pour essayer d'aller un peu plus loin, mais c'est très, très compliqué.
Est-ce que ça risque pas... Mais ça peut aussi améliorer, ces relations, parce que dans le médicament, il y a aussi la solution miracle, quoi, dont on sait que c'est un des problèmes, d'ailleurs, y compris pour les adolescents, un générateur de toxicomanie. Il y a un problème, il y a un médicament. Et là, finalement, au problème de la délinquance sexuelle, on a trouvé le médicament. Et puis voilà, on donne le médicament et votre rôle sera beaucoup plus simple, Ludovic Fossé.
Oui, mais sauf que c'est faux, puisqu'on sait très bien qu'il ne suffit pas simplement de prendre un médicament pour guérir et pour ne pas passer à l'acte. Ça va bien au-delà de là. On a évidemment des exemples les uns les autres, d'ailleurs beaucoup plus récents avec le cas Evrard. Mais moi, je me souviens d'un médecin coordonnateur qui m'en avait également parlé de l'un de ses patients qui, à la fois, prenait un traitement pour limiter la libido et puis allait voir un autre médecin pour avoir un traitement du Viagra pour contrecarrer les effets de la libido. Enfin, il n'y a que le médecin qui peut prendre en charge ça, me semble-t-il. Le juge ne peut pas aller
dans la proposition de Bernard Debray, il y a bien l'idée de centres spécialisés qui pourraient faire par des tests sanguins, qui pourraient vérifier qu'il n'y a pas un traitement compensateur, Roland Coutanceau, compensateur au traitement.
Tout à fait, mais entre le moment où le condamné va s'affranchir du traitement et le moment où on va s'en rendre compte, il se passe quand même beaucoup de temps qui permet le passage à l'acte.
C'est ça. Ça ne couvre pas le risque, voilà. C'est ça que vous voulez dire.
Et là, on est effectivement... Il faut rappeler quand même que le rôle traditionnel du juge, c'est d'intervenir lorsqu'il y a eu passage à l'acte.
Oui.
Et là, on se trouve dans une situation différente,
parce qu'on vous demande
de prévenir la récidive, donc d'intervenir avant le passage à l'acte. Et c'était tout le sens des textes qui ont été votés ces dernières années.
Ça change un peu votre métier.
Ça change totalement notre métier. On nous demande finalement d'être dans un cadre... de demander à quelqu'un de respecter un cadre formel. Et s'il ne respecte pas ce cadre formel, sans qu'il y ait un nouveau passage à l'acte, de le sanctionner, en l'absence même de nouvel acte pénal.
Mais c'est difficile pour un juge de dépasser le cadre formel, Ludovic Fossé.
Oui, bien sûr, parce qu'après, on est dans une dimension extrêmement subjective. Le condamné va éventuellement pouvoir venir nous dire « Mais moi, je ne refuse pas de me soigner, je ne refuse pas de voir tous les thérapeutes que vous voulez, j'ai engagé un travail tel ou tel médecin, ça se passe très bien ». Mais ce traitement, je n'en veux pas parce que je n'en vois pas l'utilité pour moi, il a des effets secondaires, etc. Et qu'est-ce que je vais faire de cette parole ? Et je vais avoir éventuellement un médecin à côté qui va venir me dire « Ah mais moi je pense, avec sa subjectivité, que ce traitement pourrait être utile ».
Roland Coutanceau.
À ce stade, j'ai envie d'enlever un instant ma casquette de médecin et donc de mettre une deuxième casquette qui est la casquette de criminologue. Au fond, quels sont les quatre moyens de prévention de la récidive ? C'est le suivi psychologique, le groupe de parole, c'est l'utilisation des médicaments qui sont utilisés par beaucoup de médecins comme moi, c'est la surveillance policière, on va dire, entre guillemets, et le bracelet électronique. Voilà, moi je connais quatre outils de prévention de la récidive. Vous voyez que les deux premiers sont dans le champ médico-psychologique. Les autres sont dans le champ de la dissuasion. Finalement, quand moi je circule vite sur autoroute, il y a des radars, je circule un peu moins vite. Donc, mais c'est pas, on m'a pas convaincu de circuler moins vite. C'est le fait que je sais que je peux être sanctionné qui fait que je la mets en veilleuse. Donc, pour le criminologue que je suis, je pense que laisser penser que certains actes physiques, atteinte aux personnes ou atteinte aux mœurs, ne relèvent que du traitement. C'est-à-dire que c'est ce qu'a choisi, par exemple, la loi française. Oui. Moi, je le conteste. Je dis, c'est utile, mais c'est pas suffisant. Il y a des gens, mais même quitte à être provocateur, à choquer un petit peu les auditeurs, je pense que moi, j'ai été 10 ans au CNO, j'ai vu des longues peines. Des
gens CNO, vous expliquer ce
Centre national d'observation de peine où passent après assises tous ceux qui ont plus de 10 ans de reliquat de peine. J'ai vu des gens où mon idée, momentanée, ils peuvent évoluer, c'est qu'ils ne sont sensibles qu'à la dissuasion. C'est-à-dire qu'au fond, attention, on va muscler le dispositif, si tu te fais prendre, ça va te coûter plus cher. Bon, c'est-à-dire qu'au fond, le côté médical, l'aide, pour que quelqu'un veuille être aidé, il faut qu'il comprenne, j'ai du mal à me contrôler, et vous me rendez service parallèlement à la sanction, de me proposer une injonction de soins.
Vous remarquez même,
ma libération conditionnelle.
Il me semble quand même que dans ce que vous dites, on oublie quand même un élément qui est fondamental, c'est que l'autre élément de dissuasion, c'est quand même la loi, qui n'est pas forcément intégrée par ces sujets. On le voit dans le cas Evrard aujourd'hui, c'est-à-dire que la nouvelle transgression des devoirs le conduit à être condamné à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. C'est-à-dire que quand même, l'élément qu'on peut rappeler de manière générale pour ces gens, d'autant plus que la loi française est extrêmement sévère pour ce type d'actes, et notamment lorsqu'ils sont commis en récidive, mais Evrard, il savait en sortant de prison qu'en récidivant, il encourait la réclusion criminelle à perpétuité.
Et pourtant, le désir a été plus fort.
Oui.
Moi, je vais vous dire une chose. Alors, le désir, c'est pas ma thèse. Moi, j'ai écouté...
Le sentiment de toute puissance, de ne pas être pris.
J'ai écouté au CNO des récidivistes. 90% m'ont dit, j'ai gâché ma vie, donc ça montre un petit peu que... Et même, ils ont dit, la deuxième fois, j'ai cru que j'allais être assez malin pour ne pas me faire prendre. D'accord ? Et donc, on voit que... alors, évidemment, c'est une illusion, mais il n'y a pas que la force de l'excitation. Il y a le fait que, dans son égocentrisme, peut-être des fois dans sa bêtise, le sujet transgressif espère qu'il va être assez malin pour le faire sans se faire prendre. Sinon, il ne le ferait pas.
C'est vrai de tout délinquant.
Ça veut dire, pour moi, c'est une conclusion. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que la loi existe et qu'elle doit être, qu'elle est en elle-même, par sa seule existence déterminante.
Ça veut dire qu'elle doit être rappelée en permanence
pour ce type. Et plus que ça, elle doit rentrer dans une sorte d'interaction avec l'individu. J'étais très intéressé dans une chose que vous avez mentionnée dans vos travaux, Roland Coutenceau, c'est l'efficacité de la visite par un policier au domicile des personnes sous contrôle judiciaire. Vous avez remarqué, d'ailleurs on remarque la même chose en antiterroriste, que la perspective, ce qui est assez terrible d'ailleurs, de pouvoir être visité par un policier qui vous rappelle physiquement vos obligations, c'est efficace, Roland Coutenceau.
Alors là aussi, c'est une logique criminologique. C'est-à-dire que moi j'ai une thèse, c'est qu'il y a une minorité des gens, alors que je suis un psychiatre humaniste, l'espace... Tant qu'ils n'évoluent pas, en les regardant avec ce qu'ils me disent, je pense qu'ils ne sont pas accessibles à l'aspect humanisant du traitement médico-psychologique, mais ils ne sont sensibles finalement qu'au risque de se faire prendre. Et donc, je pense que c'est stratégique pour une société, tout en sans stigmatiser l'homme. Moi, je ne tiens pas à ce qu'on stigmatise l'homme, mais effectivement, de lui rappeler de façon plus réaliste la loi. Par exemple, dans certains pays, au lieu de se contenter que le sujet vienne signer à la gendarmerie ou à la police, un policier en civil vient au domicile, pas pour emmerder le sujet, mais pour lui dire, finalement, je vais dire de façon populaire, on t'a à l'œil. De même, pour moi, le bracelet électronique, qui a été très polémique, vous l'avez vu, quand il a été créé aujourd'hui, au fond, on dirait toutes les tendances de l'humanisme l'acceptent, le bracelet électronique. Le bracelet électronique, pour moi, c'est pas, contrairement à ce que disent certains, c'est pas, au fond, que le sujet va se faire prendre et ça va faciliter l'enquête. Moi, je crois à l'aspect dissuasif du bracelet électronique, je m'explique. Le bracelet électronique, pour moi, c'est à tous les coups, tu vas te faire prendre. C'est un jeu où à tous les coups, on perd. Et ma thèse, c'est que même les sujets que je trouve peu humanisés ou humanisables, momentanément, je renonce jamais, mais sont sensibles au fait, à tous les coups, je vais me faire prendre. Je pense qu'en l'utilisant, on verra si ça diminue un peu la récidive. Moi, j'y crois, mais comme je ne suis pas un croyant, expérimentons-le.
Là, on touche évidemment à la question des moyens pour prendre en charge, évidemment, ce type de délinquance sexuelle. Et on est quand même très très largement démunis aujourd'hui. Alors peut-être pas d'ailleurs pour parce qu'encore une fois, ça, ce type de délinquants, lorsqu'on a réussi évidemment à les identifier, c'est une infime minorité quand même des personnes que l'on suit. Donc on doit être en mesure, rappeler, a priori, de les suivre. C'est plus un problème, à mon avis, culturel, d'être dans cette capacité de ne pas avoir de rupture dans le suivi. Et on l'a vu dans le cas d'Evrard, où il est sorti de prison début juillet, et la première prise en charge est intervenue plus tard, même si lui s'est manifesté pourtant entre-temps.
Donc il y a du temps réel aussi dans la prise en charge de la peine.
Et qu'on arrive à travailler, alors le législateur nous l'a demandé d'ailleurs, enfin plus que demandé d'ailleurs, puisque c'est inscrit dans la loi, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture entre la sortie de détention et la prise en charge en milieu ouvert de ces personnes-là, mais c'est extrêmement compliqué pour nous, parce qu'évidemment, ces dossiers viennent se noyer dans la masse de tous les autres, même si on essaye évidemment de les identifier et de les prendre en charge. Mais je pense que tout l'enjeu, tout le défi aujourd'hui est là, c'est pour justement rappeler la loi en permanence, et un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à tout coup, vous perdez si vous récidivez, il faut être en capacité de très très vite de les prendre en charge.
Ludovic Fossé, en tant que juge d'application des peines et que vous êtes de plus en plus, comme les psychiatres, le mauvais objet de toutes ces campagnes de presse, est-ce que c'est pas terrible d'avoir à prendre un risque pour quelqu'un d'autre ? Est-ce que quand on passe une logique de la peine et une logique de la réinsertion à une logique du risque, qui est la logique préventive, comment vous réagissez ? Je dis vous, dans un terme collectif, comme vous êtes responsable, responsable d'une association de juge d'application des peines, qu'est-ce que vous pourriez dire de la sensibilité actuellement de vos collègues sur cette tâche terrible qui vous incombe?
Il y a un peu de désespérance, évidemment, vis-à-vis de la manière dont l'opinion publique perçoit notre rôle lorsque, à chaque fois qu'il y a une situation d'échec, parce qu'évidemment, c'est toujours l'idée des trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a...
Et vous vivez aussi, il faut le dire, des réussites dans cette prise en charge.
On peut l'espérer, sauf qu'évidemment, ces réussites, elles sont non dites. Même à nous-mêmes.
Par définition, invisibles, puisqu'il ne s'est rien passé.
Et voilà, exactement. Donc, on est dans l'invisible et donc dans l'impossible à dire. Sur ces sujets-là, et évidemment, on ne parle que de ceux qui évidemment ont récidivé et qui n'ont pas respecté leurs obligations et qui renvoient à une part de culpabilité, évidemment, c'est inévitable, aussi bien pour le juge d'application des peines qui est en charge du dossier que pour penser l'insertion, que pour à chaque fois, pour des actes aussi graves et aussi importants, pour celui qui avait en charge et qui n'a pas pu empêcher cette récidive, il y a une part de culpabilité, même si très vite. On essaye de dépasser ça et on dit que c'est d'abord l'auteur et c'est d'abord lui qui a mis en jeu cet acte et pas le juge. Mais c'est vrai que c'est très très difficile à vivre pour les collègues qui sont...
À ce stade du débat, je voudrais donc approfondir une notion qui a été très polémique, qui justement est polémique, mais qui me semble très intéressante. C'est que vous l'observez, les uns et les autres, c'est que le mot « dangerosité criminologique » au fond infiltre la loi. Oui. En même temps,
la logique même d'ailleurs.
C'est quelque chose qui est difficile à apprécier, mais qu'on peut apprécier.
Roland Coutanceau. Pardon ? Que vous ne refusez pas.
Non,
ce terme.
Bon, moi j'ai une position un peu minoritaire, c'est-à-dire que je pense que au fond c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Mon défi, puisque je suis aussi un psychiatre humaniste, un criminologue humaniste, c'est qu'au fond, est-ce qu'on peut évaluer la dangerosité criminologique sans stigmatiser l'homme ? Voilà un petit peu comment je me pose à moi-même, pour ma propre réflexion, le défi. Alors. Est-ce que le problème en France, si on élargit les choses, c'est que je comprends parfois un petit peu les hommes politiques volontaristes, mais le débat sur la dangerosité criminologique, il a été posé à un moment où socialement on s'est dit ah ben voilà, quelle va être la conséquence de la dangerosité criminologique ? Ça va être tu sors ou tu sors pas. Oui. Alors que moi je pense que philosophiquement, pour le gros de la troupe des sujets transgressifs, c'est plus intéressant de le poser. Oui, on va évaluer la dangerosité criminologique et je vais dire comment. Mais ça va avoir comme conséquence simplement, on augmente un peu la contrainte au moment de la libération conditionnelle.
Sauf que c'est pas la réponse qui a été apportée par le législateur. C'est-à-dire que moi, je suis en très grande difficulté sur ce sujet, puisque j'aimerais beaucoup qu'on puisse effectivement apprécier de manière très finement la dangerosité criminologique. Je pense que tout magistrat serait ravi de pouvoir déterminer à l'avance si une personne va ou pas passer à l'acte. Et la réponse aujourd'hui qui est apportée par le législateur, c'est que quand on considère qu'il y a un risque de récidive trop élevé, donc, mais de quelle manière l'évaluer, la réponse à apporter, c'est la rétention de sûreté.
Et donc, aucun risque.
C'est aucun risque.
Réfléchissons ensemble quand même. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être entendu par le Conseil constitutionnel pour parler d'un danger criminologique. Bon. Donc, j'ai défendu une idée simple, c'est qu'au fond...
Mais
vous allez voir, parce que moi, j'aime bien sortir des débats polémiques.
La France, vous êtes humaniste, mais le législateur n'est pas toujours humaniste.
Mais quand même, si, parce que quand même, regardez, vous voyez bien que... aujourd'hui même, moi je pense que le problème de la rétention de sûreté obsède un petit peu la société, que le vrai problème, c'est au fond d'accompagner, en les aidant à ne pas récidiver, ce que j'appelle le gros de la troupe, c'est-à-dire la masse des délinquants. Donc, en s'obsédant sur ce mécanisme...
On oublie le reste.
On oublie le reste. Et donc, je dirais... Moi, je ne suis pas obsédé par le législateur.
C'est très symbolique, cette réponse. Même si, effectivement, elle est aujourd'hui vide de sens, puisqu'elle ne s'appliquera que dans plus de 15 ans.
Pourquoi elle est très symbolique, cette réponse?
D'abord parce qu'elle ne concerne personne aujourd'hui, fort heureusement, puisque le Conseil constitutionnel a fait valoir que cette disposition ne pourrait s'appliquer que dans une quinzaine d'années, de manière assez étonnante, d'ailleurs, sur le plan de sa jurisprudence habituelle, on ne va pas rentrer dans ce débat, et qu'elle ne peut concerner, évidemment, qu'un très peu nombre de personnes, parce qu'en plus, on peut imaginer très fortement que ceux qui... pourrait rentrer en cas de rétention de sûreté, rentre aussi dans le cadre d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, et que donc ce public-là...
Parce que, justement, Roland Coutanceau, je voudrais vous interpeller sur votre humanisme, parce que je respecte et je n'aimerais pas en cause. Mais ce que je constate, c'est qu'on a à peine posé la question de la rétention de sûreté qu'est arrivé le débat sur la castration chimique, dans ces termes-là, qui sont révélateurs. Et puis, le terme de castration chimique est doublé, en quelque sorte, dans une sorte de surenchère qui est inquiétante par la castration physique, qui pose une toute autre dimension sur la réversibilité du traitement, et donc on se rapproche de la mutilation, d'une mutilation légale, comme s'il y avait une revanche d'ailleurs des gens qui n'ont pas tout à fait accepté la fin de la peine de mort, la suppression de la peine de mort, et donc il y avait une sorte de, comment dire, une sorte de peine de mort partielle en quelque sorte. Alors, est-ce que vous ne croyez pas, c'est une question que je pose à tous les deux, est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, comment réintroduire l'humanisme, on va le dire de manière positive, comment réintroduire l'humanisme qui est indispensable, ce dialogue d'homme à homme, cette rencontre entre les hommes, y compris avec la victime, qui définit le moment de justice, celui du procès et celui de l'application des peines, est-ce que vous ne croyez pas que ça va être emporté par cette surenchère?
Alors moi, je vais vous répondre de la façon suivante. Ensuite, c'est-à-dire que moi, je me laisse pas... Je pense qu'il y a un niveau du débat qui est d'ordre politique et il est mené par les gens qui ont une sensibilité politique et c'est leur affaire. Moi, je suis un professionnel de terrain. Donc je pense que ce qui m'intéresse, je vais vous dire sur ce sujet, parce que je pense que... Et je vais analyser... De mon point de vue, l'affaire Évrard. Moi, je ne jette pas la pierre aux professionnels. On aurait tous pu faire la même chose. Mais quand même, quelle est la culture qui manque quand même dans le système? C'est qu'au fond, est-ce qu'on va traiter un Évrard comme on va traiter un père incestueux qui reconnaît qu'il y a la visite de sa fille qui va rentrer dans sa famille? C'est-à-dire qu'au fond, si on ne s'autorise pas à avoir un regard plus fléché vis-à-vis de gens qui, à tort raison, apparaissent à risque, je dis que on ne fait pas tout ce qu'on peut. Et ça, c'est dans l'intérêt bien compris du sujet. Moi, tous ceux qui ont récidivé, ils me disent qu'ils ont gâché leur vie.
Oui, bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut mobiliser du savoir, ça veut dire qu'il faut disséminer ce savoir, il faut le répandre, il faut faire un enseignement criminologique, y compris dans les facs de droit, y compris... C'est-à-dire que ça demande un travail de long terme, de longue haleine.
Non, alors je suis provocateur. Moi, j'ai deux provocations. Je dis, ce n'est pas une question de moyens. Oui. Et deux, il ne faut pas faire des recherches. On les a. Il y a déjà.
Faire connaître.
Alors, il faut les faire connaître.
Alors, ce que je veux dire, c'est que cette double réponse, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a la fois la réponse du politique qui est aujourd'hui mis en exergue et qui est d'ailleurs reprise très largement par les médias. Enfin, on voit bien qu'il y a un jeu. Il y a un jeu très, très, très subtil, opinion publique, médias, homme politique. Donc il faudrait effectivement que l'homme politique arrive à sortir de ce jeu, de la réaction permanente aux faits divers. Qu'on ne peut de toute façon pas empêcher. Enfin, dire cette idée d'un risque zéro et d'une impossibilité de passage à l'acte pour ce type de délinquance, aussi bien pour ce type de délinquance qu'un autre, est un leurre total. Et en même temps, il y a quand même heureusement d'autres hommes politiques qui réfléchissent au fond à ces questions-là. Et moi, j'en veux pour preuve la commission qui existe à l'Assemblée nationale sur le suivi de l'exécution des peines, qui a fait un travail remarquable cet été sous la conduite d'Étienne Blanc, dont le rapport a été déposé au mois de juillet 2009 sur le bureau de l'Assemblée nationale sur la prise en charge. Non seulement le travail était plus large, c'était sur en fait la prise en charge sanitaire, psychologique, psychiatrique des délinquants et y compris les délinquants sexuels. Ce rapport fait à peu près 300 pages et fait une cinquantaine de propositions. Et aujourd'hui, ce rapport, personne n'en parle. Alors qu'à mon avis, c'est le travail de fond.
Oui, mais c'est ça le problème.
Et c'est bien là où il y a une difficulté. C'est-à-dire que ce travail de recherche que vous dites, à mon avis, il existe. Il peut évidemment être accentué, amélioré, etc. Sauf qu'il est inaudible. Le fait divers, le sensationnel, le rend inaudible. Et oui, il faut inverser le rapport.
En même temps, pour revenir à notre sujet, regardez. Bon, alors, finalement, c'est vrai que si je suis un citoyen qui ne connaît rien, j'entends quelques hommes politiques dire la castration chimique, c'est la solution. Je suis convaincu, je me dis, c'est sérieux, là, on leur coupe les couilles et ça marche. Mais finalement, regardez, après avoir dit, avoir laissé entendre, on va obliger les délinquants sexuels à prendre le traitement médicamenteux. Qu'est-ce que vous allez voir dans quelques jours ? Qu'est-ce que vous allez voir dans quelques jours ? Comme je l'ai dit, dans toutes les démocraties du monde, la déontologie médicale suppose qu'il y ait une information éclairée et que je cherche à convaincre le sujet de prendre le médicament. C'est-à-dire que
ce qu'on voit malheureusement, c'est que
l'obligation de traitement ne sera pas dans la loi.
La logique de la démocratie d'opinion, cette logique aujourd'hui dévastatrice du fonctionnement que vous décriviez, Ludovic Fossé, entre les médias, certains médias et certains hommes politiques, mais qui tiennent le haut du pavé, fait que la déontologie, les scrupules déontologiques, aussi bien des médecins que des juges, pèsent peu. Un dernier mot, parce que nous approchons de la fin de cette émission, un dernier mot sur la castration physique, parce que c'est aussi quand même un débat très, très surprenant, très violent, surenchère de la violence, Ludovic Fossé.
Moi, je considère pour ma part que c'est une abomination, que ça n'a pas de sens. Je crois que vraiment, là, ce serait un retour quasiment au Moyen-Âge, hein, pour reprendre des images un peu classiques. Enfin, c'est le supplice de Damien, donc je pense qu'il faut, il faut absolument s'interdire ce type de solution. Et on sait qu'en plus, ce n'est pas l'efficacité. On a un exemple, je crois, en Allemagne, dans les années 70, que quelqu'un qui avait fait l'objet d'une castration physique et qui a commis un meurtre quelques années après. Enfin, je pense que ça a un non-sens.
Roland Coutonceau.
Oui, effectivement, je crois que ce n'est pas par hasard que la plupart des démocraties l'ont interdit. En plus, en Allemagne, où cette castration physique existait au milieu du XXe siècle, il y a des sujets qui ont agressé avec leurs doigts, avec une bouteille, avec un objet. Donc il faut bien dire aux gens, le sexe, ce n'est pas que en bas, c'est aussi dans la tête, c'est aussi dans l'imaginaire. C'est là qu'est une des clés la problématique de l'agression sur l'autre.
Et donc, ça passe nécessairement par une relation humaine.
Voilà, tout à fait.
Oui. Alors, un dernier mot que je donne au juge d'application des peines pour que France Culture s'inscrive en faux contre cette dénomination englobante des médias, Ludovic Fossé. Dans quelle direction faudrait-il aller ? Quelle est votre attente, vous, en tant que juge d'application des peines, sur une politique ?
Une réponse simple, c'est de nous permettre de mettre en œuvre les textes qui existent, de nous laisser le temps de les mettre en œuvre avant même. Puisqu'actuellement, on est dans une surenchère législative où on modifie la législation avant même qu'on ait pu la mettre en œuvre. Il faut savoir que la loi de 1998, pour l'essentiel, n'a pas encore produit ses effets.
Celle
qui prévoit le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins.
Et les médecins coordinateurs.
Pour les criminels les plus dangereux qui ont évidemment été condamnés à des peines de 12, 15, 20 ans de réclusion criminelle, ils sont encore en détention aujourd'hui, ils vont sortir. Et le législateur s'est déjà autorisé à deux reprises à modifier cette loi, alors même qu'elle ne s'applique aujourd'hui qu'en matière délictuelle, si je puis dire. Donc, de grâce, cessons de modifier la loi tous les 6 mois et donnons-nous les moyens de travailler les uns les autres. Apprenons peut-être à travailler mieux ensemble, parce qu'effectivement, encore une fois, ça suppose des articulations qui sont nouvelles entre le juge, le médecin coordonnateur. Et faisons-nous confiance. Moi, j'avais simplement, pour finir, sur une touche un peu France Culture, si je puis dire, moi, j'avais en préparant l'émission, une phrase de Louis Aragon qui m'était revenue, c'est « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse ». Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, les forces et les faiblesses de l'homme.
Eh bien, Ludovic Fossé, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci aussi à vous, Roland Coutonceau. Je rappelle aux auditeurs le titre de l'ouvrage que vous allez signer chez Duno, « Auteur et victime d'agression sexuelle, approche psychocriminologique ». Place maintenant à la chronique de Sébastien Miller. Bonjour Sébastien.
Bonjour Antoine, bonjour à tous. Chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt du 10 février 2009. Les faits étaient les suivants. Des policiers qui effectuaient une patrouille à bord de leur véhicule avaient repéré une voiture roulant en plein phare et zigzagant dangereusement le long de la route. Ils avaient décidé de contrôler le véhicule et lui avaient adressé les signaux lumineux réglementaires pour qu'il s'arrête. Mais le conducteur avait choisi de les croiser sans s'arrêter. Au moment où il les avait dépassés, il avait percuté la voiture de police à l'aile et la portière gauche, ainsi qu'au rétroviseur. Puis il avait pris la fuite. Une poursuite s'était engagée à très haute vitesse, près de 110 km/h, jusqu'à ce que, arrivé à une impasse, le chauffard soit contraint de s'arrêter. Les agents de police étaient sortis de leur véhicule pour procéder à son interpellation afin d'effectuer un contrôle de son identité. Seulement, comme il avait été établi par la suite, un des agents ne s'était pas contenté de procéder à l'interpellation, mais il avait violemment frappé le chauffard avec ses poings et sa matraque, lui infligeant plusieurs fractures au visage et aux côtes. Le chauffard, victime des violences du policier, avait porté plainte et s'était tourné vers le juge pour qu'il condamne l'auteur des violences. Les faits étaient suffisamment établis pour que le tribunal correctionnel le condamne à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. En revanche, la question qui se posait était de savoir si le juge pénal était aussi compétent pour se prononcer sur la réparation que le policier devait à sa victime en raison du préjudice qu'elle avait subi. Et derrière cette question apparemment technique de la compétence du juge pénal pour statuer sur la responsabilité d'un agent de police à raison des violences qu'il a commises, c'est toute une jurisprudence subtile sur les limites de la responsabilité de l'État à raison des fautes commises par ses agents qui se dessine. L'idée directrice de cette jurisprudence est la suivante. Lorsqu'un agent de l'État commet une faute préjudiciable à un citoyen, il est nécessaire d'examiner si cette faute est dépourvue de tout lien avec le service. À défaut, la responsabilité de l'État est nécessairement engagée, car c'est alors à l'occasion de l'action de l'État que la faute a pu être commise, quand bien même cette faute résulterait de la malveillance exclusive et personnelle de l'agent concerné. Au minimum, on peut considérer que c'est l'organisation administrative qui a provoqué la rencontre entre l'agent fautif et l'administré victime, même si, bien entendu, elle n'est pour rien dans la faute commise. En revanche, si la faute est dépourvue de tout lien avec le service, si par exemple elle est commise par le fonctionnaire dans un cadre privé et sans qu'il fasse usage des prérogatives que lui confie l'administration, alors la responsabilité de l'État ne peut être engagée et seule peut l'être celle de l'agent fautif. À ce premier principe s'en ajoute un second, qui rend compte du fait que, bien souvent, les situations juridiques sont plus grises que noires ou blanches. Il s'agit du principe du cumul des responsabilités. Lorsque la faute n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, mais qu'en même temps elle relève d'un comportement particulièrement fautif du fonctionnaire au regard des obligations qui sont les siennes dans l'exercice de ses fonctions, le juge considère qu'il y a cumul des responsabilités. D'un côté, la responsabilité de l'État, à raison du dommage causé par ses agents, est engagée. De l'autre, la responsabilité personnelle de l'agent est engagée. Et la victime peut se tourner vers l'un comme vers l'autre pour obtenir la réparation de son préjudice. L'affaire qui nous intéresse est une excellente illustration de cet état de fait. Les violences dont s'est rendu coupable le policier ont été commises dans le cadre d'une interpellation. Elles ne sont, de ce fait, pas dépourvues de tout lien avec le service. Pour autant, elle présente un caractère de brutalité tel qu'il est sans rapport avec les nécessités de l'exercice des fonctions. Et elle constitue donc une faute personnelle qui engage la responsabilité personnelle de leur auteur. Cette jurisprudence est importante car, en distinguant la responsabilité de l'État de celle de ses agents lorsqu'ils commettent une faute personnelle, elle rend compte à la fois de l'étendue de l'action administrative et du fait qu'elle est ultimement relayée par des agents qui peuvent être faillibles, sans que cela soit une faille de l'État. C'est une jurisprudence qui rappelle qu'on ne doit pas confondre la faute d'un agent avec celle de l'État. Importante distinction.
Merci Sébastien. Cette émission a été préparée par Harold Épineuse et Antonin Rabec, avec l'aide de Sarah Albertin. À la réalisation ce matin, Nathalie Salle, et à la technique, Martin Delafosse. Attaché de production, Sylvia Favre. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 4 semaines sur le site de France Culture, à la page du Bien commun, et l'enregistrer pendant une semaine. La semaine prochaine, le Bien commun s'intéressera à la question des médicaments